Bien, aujourd'hui pour notre étude, nous allons regarder ensemble dans l'épître de Paul à Tite, une fois encore, et le chapitre 3, du verset 3 au verset 8. Et je voudrais vous parler concernant le salut qui est en Jésus-Christ. Quand j'annonce un tel sujet, il y a peut-être beaucoup qui diront, mais qu'est-ce qu'il y a encore à apprendre là-dedans? Parce qu'ils imaginent qu'ils savent déjà tout ce qui est nécessaire. Mais ce que je trouve, c'est que les idées des hommes au sujet du salut en Jésus-Christ sont souvent opposées à ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole. Et puisque nous savons que le salut vient de Dieu, et c'est par la révélation de Jésus-Christ dans le cœur que quelqu'un peut réellement connaître Christ en vérité, alors nous ne devons jamais imaginer que simplement parce que quelqu'un a une certaine connaissance du sujet, que cela signifie alors qu'il connaît le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le message à travers toute la Bible revient sur ce sujet. Et je ne peux pas imaginer un sujet plus important que celui-ci, le salut en Jésus-Christ. Donc dans Tite, chapitre 3, à partir du verset 3, nous lisons car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Avant de continuer, prions et demandons à Dieu, son Esprit, de nous enseigner. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion de nous rassembler encore et d'écouter ta parole. Que tu daignes bénir mes pensées afin que ce qui sorte de ma bouche, soit entièrement pour ta gloire et ta gloire seule. Et Seigneur, que tu daignes bénir notre entendement, que ton esprit de grâce œuvre dans notre cœur afin que tu nous donnes une plus grande appréciation de ton Fils et de son œuvre accomplie pour les pécheurs tels que nous sommes. Et pour cela, nous te remercions d'avance. Que tu diriges cette séance d'études à ta gloire et ton honneur seul. Et c'est dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, qu'en est-il du salut qui est en Jésus-Christ? Dans le verset 3 que je viens de lire, ce qui est sûr, c'est que ce salut est pour les pécheurs et non les propres justes. Beaucoup de gens ont dans leur imagination qu'il faut quand même quelque chose de bon à présenter à Dieu afin qu'on soit accepté par lui. Pourtant, la Bible ne donne aucun espoir à quiconque qui imagine qu'il peut s'approcher de Dieu par des œuvres quelconques. C'est pourquoi j'ai dit que la Bible, et particulièrement ce texte, nous rappelle le genre de personnes que Dieu sauve, sont des pécheurs. Et non, j'utilise ce terme expressément, les soi-disant propres justes, ceux qui se voient justes dans leurs propres yeux. De telles personnes n'ont aucun espoir par rapport à Dieu. Et c'est pourquoi Paul rappelle à Tite ce que nous étions autrefois. Cela veut dire avant que le Seigneur, par sa grâce et son esprit, révèle Christ en nous, si nous sommes à lui, alors notre chemin que nous suivions, notre état, était exactement comme ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et c'est pourquoi nous ne devons pas imaginer qu'il y a quelque chose en nous qui fait de nous des êtres mieux que les autres. Rappelons que dans les deux premiers versets, Paul a exhorté Tite dans ses enseignements de rappeler à son auditoire d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. Quand il dit d'être soumis aux magistrats et aux autorités, il faut se rappeler que c'était à une époque où c'était l'Empire romain qui était prédominant. Et ceux qui étaient dans ces positions de pouvoir étaient des hommes corrompus et cherchaient leur propre gloire et imposaient des règlements et des lois sur le peuple qui, pour eux, n'étaient pas pour leur bien. Pourtant, ce que la grâce de Dieu enseigne, c'est d'être soumis à cela, parce qu'il n'y a aucun pouvoir qui existe qui n'est pas de Dieu, et d'exercer envers ceux qui sont contraires à cette même grâce que Dieu nous a faite. Ouais. De ne médire personne, verset 2, d'être pacifique, modéré, plein de douceur, noté envers tous les hommes. Où est-ce que les gens peuvent voir visiblement une illustration de la grâce de Dieu, si ce n'est à travers ceux qui sont les objets de cette grâce? Les pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi nous devons vivre de la manière que nous vivons, nous rappelant, comme c'est écrit dans le verset 3, que nous étions autrefois comme eux. Et vous voyez les caractéristiques, et si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, nous pouvons immédiatement nous identifier avec ce qui est écrit ici, insensé. Vous voyez ça? Verset 3. Cela veut dire sans aucune connaissance, ni sagesse, ni compréhension spirituelle. Si nous sommes à Christ aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons une certaine intelligence qui est supérieure à ceux qui sont dehors. Non, mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Ouais. Autrement, nous étions auparavant insensés et sans compréhension spirituelle. Il faut l'esprit de la grâce de Dieu de nous enseigner, nous apprendre de Christ. Autrement, on ne pouvait jamais le connaître. Et puis, voilà le deuxième mot là, désobéissant. Le mot signifie aussi bien incrédule que désobéissant. Cela veut dire ni persuadé d'assentir à la vérité. On ne pouvait pas appréhender, on ne pouvait pas comprendre ou connaître l'évangile dans cet état-là. C'est à cause de la tromperie du péché. Et puis, c'est écrit égaré, qui ne peut pas comprendre cela. Nous sommes égarés depuis Adam. Quand Adam a chuté, nous aussi, nous avions chuté en lui. Et si ce n'est le Seigneur comme le grand berger qui est venu nous chercher, on ne serait jamais approché de Dieu par lui. Donc, égaré. Et puis, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Le mot volupté signifie plaisir. Laissé à nous-mêmes, on ne faisait que chercher notre propre plaisir. Cela veut dire nous étions esclaves de notre appétit sensible. On vivait pour la chair. Et je dois dire que même dans la religion, ce que les gens font en offrant des œuvres qu'ils appellent bonnes œuvres à Dieu, ils sont en train de servir cette chair. C'est en leur donnant une certaine satisfaction d'avoir fait quelque chose pour plaire à Dieu. Mais je dois dire que Dieu ne peut jamais accepter de la main d'un pécheur quoi que ce soit. Parce que même le bien que nous imaginons offrir est teinté du péché. Vous voyez? Mais telle était notre manière de vivre, servir, asservir à diverses, toute espèce de convoitises de la chair, que ce soit l'envie, que ce soit la malice, que ce soit la colère envers d'autres, un désir de vengeance. En tout cas, tout cela était ce qui conduisait notre pensée, vivant dans la méchanceté. Je sais qu'il y a certains qui ont été élevés peut-être dans un milieu religieux et ils peuvent peut-être imaginer alors que ce mot ne s'adresse pas à eux. Mais vivre dans la méchanceté, c'est de vivre avec une chair pécheresse. Parce que ce cœur est tordu et on n'a pas besoin d'aller dehors dans le monde pour chercher un exemple de la méchanceté. Ce cœur que nous avons en nous, que nous portons tous les jours en nous, est un cœur plein de méchanceté et d'envie et digne d'être haï. Nous ne devons pas être surpris d'apprendre que la colère de Dieu demeure sur ceux qui sont en dehors de Christ. Parce qu'avec cette nature pécheresse, nous sommes dignes d'être haïs et nous haïssons les uns les autres. Il suffit de voir la manière que les êtres humains traitent d'autres êtres humains, de savoir que tout cela, c'est à cause de la colère qui réside dans le cœur de chacun, à part la grâce de Dieu. Quand c'est écrit là que nous sommes pleins d'envie, il faut imaginer le mot odieux, méritant d'être abominé par d'autres personne et surtout par Dieu lui-même. Alors, cela nous montre que le salut en Jésus-Christ est pour de tels pécheurs. Si Dieu ne nous a pas encore montrer ce que nous sommes dans notre péché, alors nous sommes encore dans les ténèbres. Parce que c'est écrit dans le verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois. Cela démontre alors une distinction entre le passé et ce que nous sommes maintenant. Mais c'est pour de tels pécheurs que Christ est venu dans ce monde. Si vous lisez avec moi, par exemple, dans l'Épître ou bien l'Évangile selon Matthieu et le chapitre 9, à partir du verset 13, Christ a dit à ses pharisiens de son jour, et là il faut reconnaître que les pharisiens étaient des hommes qui, à leurs propres yeux, se considéraient comme justes devant Dieu, à cause de leurs œuvres, à cause de leur héritage étant des Juifs. Mais Christ leur a dit dans Matthieu 9, 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Christ n'est pas en train de minimiser l'importance des sacrifices sanglants qui devaient être offerts à l'époque jusqu'à ce que Christ lui-même ait donné sa vie comme l'agneau de Dieu. Mais il parle là du fait d'offrir des sacrifices pensant que le simple fait de faire ce que la loi exigeait, que cela signifie alors qu'ils étaient justes. Non, il dit, je prends plaisir à la miséricorde. C'est par la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et pour montrer que lui, Christ, est Dieu, il était Dieu dans la chair, il dit, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors cela nous donne cette précision que ceux que Dieu sauve sont des pécheurs. Et voilà ce que Paul a dit aussi à Timothée, que c'était une déclaration fidèle et une parole certaine dans 1 Timothée chapitre 1 et le verset 15. Entièrement digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, il dit, dont je suis le premier. Paul a dit ça à la fin de sa vie, de son ministère. Il n'a pas dit dont il était le premier, mais que je suis le premier. Alors, rappelons-nous que cet évangile, ou bien le salut qui est en Jésus-Christ, est pour les pécheurs et non les propres justes. Personne ne serait ou bien sera justifié devant Dieu par ses œuvres ou bien une justice propre de lui-même. Non, c'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Une fois satisfaite par lui pour toujours, pour ce que le Père lui a donné. Alors cela nous amène au deuxième point sur le salut qui est en Jésus-Christ, que nous voyons dans notre texte, dans Tite 3, du verset 3 au verset 8. Et voici le point, c'est que le salut qui est en Jésus-Christ est uniquement par la grâce de Dieu seul. C'est écrit dans le verset 4. Mais, voyez ouais, le contraste entre verset 3, ce que nous étions, laissés dans cet état, il n'y aurait jamais d'espoir. Mais, ça c'est un petit mot très important pour ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Si quelqu'un demande à un enfant de Dieu comment vous êtes sauvé, La réponse est simple. C'est par la bonté de Dieu, le Sauveur, et son amour. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose en nous. Ce mot bonté, c'est de ce mot que nous tirons le mot la grâce de Dieu. Et pour montrer combien encore ceux qui sont des enfants de Dieu doivent apprécier cette différence que Dieu lui-même a faite entre eux et le reste du monde, c'est la bonté et l'amour de Dieu. Les deux vont ensemble. Ce que Dieu a aimé depuis l'éternité, donc il manifeste sa bonté envers eux. Comment? Notez bien verset 4, c'est écrit de Dieu notre Sauveur en sauvant ces pécheurs-là. Je sais que les gens aiment citer Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ils imaginent que cet amour alors est un amour général envers tous les individus du monde. Non. Mais quand on voit le contexte, car Dieu a de cette manière aimé le monde. Voilà ce qui est écrit dans l'original. De cette manière, Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Et ça ne dit pas, même en Jean 3,16, qu'il a donné son Fils pour tout le monde entier. Non, c'est écrit afin que quiconque croit. Alors, le monde est plein d'incroyants. On ne peut pas dire que Dieu a donné son Fils malgré leur incrédulité, même s'ils vivent et meurent dans l'incrédulité, ah voilà, quand même Christ est mort pour eux, non. Le fait que quelqu'un vit et meurt dans l'incrédulité est une preuve que la colère de Dieu était sur eux dès le début. Je ne sais pas si vous avez jamais lu le reste du chapitre 3, en Jean 3, mais remarquez bien ce que dit le verset 36, d'abord 35, Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est ce que Christ a dit dans Jean 17, lorsqu'il a, il a glorifié son Père du fait que le Père lui a donné pouvoir ou bien autorité sur toute chair, et puis il dit, afin de donner la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. Donc déjà, il y a cette distinction. Si quelqu'un croit en Christ, c'est parce que l'Esprit de grâce l'a attiré, a révélé Christ en lui, et alors il est devenu croyant. Mais si quelqu'un reste dans l'incrédulité, et le monde est plein d'incrédules, que peu importe le nombre de fois qu'ils entendent prêcher Christ et l'Évangile, ils ne croiront jamais. Alors, c'est écrit, celui qui croit au Fils, notez bien, a la vie éternelle. Ça ne dit pas aura la vie éternelle, mais à la vie éternelle. C'est pourquoi quelqu'un croit au Fils, parce que la vie éternelle lui a été donnée déjà. Et notez bien le reste, Jean 3, 36, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi quelqu'un ne croit pas au Fils? C'est parce que cette grâce ne lui a jamais été donné pour croire. Autrement, il allait croire. Alors c'est pour ça que Paul, ici en écrivant à Tite, dans Tite 3 et le verset 4, il rappelle à ceux qui sont croyants, à ceux qui sont des enfants de Dieu, que ce n'est pas à cause de quelques biens en eux ou bien en nous, mais à cause de la bonté de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez comment ces deux vont ensemble. Bonté, salut, et amour pour, notez, les hommes. Comment est-ce qu'on peut savoir ceux dans le monde qui sont les objets de cette grâce ou bien de cette bonté de Dieu en Jésus-Christ? C'est à travers la repentance, à travers la foi qui leur est donnée pour qu'ils croissent maintenant en Christ tel qu'il est révélé dans les Écritures, contrairement à ceux qui continuent dans leur religion ou bien leurs efforts personnels à plaire à Dieu, etc. Ce qui est sûr, on ne peut pas mélanger la grâce et les œuvres. Je vous invite à voir cela dans Romains chapitre 11 et le verset 6, où c'est clair, soit que c'est par la grâce de Dieu ou c'est par les œuvres, mais jamais les deux ensemble, comme si c'est une coopération entre la grâce et les œuvres. Notez ici dans Romains chapitre 11. Et commençons dans le verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Si ce n'était à cause de l'élection de la grâce, alors personne ne serait sauvé. Mais comment est-ce que cette grâce, et quand on parle de l'élection de la grâce, il s'agit de Dieu qui choisit. Depuis l'éternité, il a choisi. Il a fait des pécheurs les objets de sa bonté, de son amour qui ne change jamais. C'est ce que je trouve vraiment bizarre du fait que des gens aujourd'hui parlent de l'amour de Dieu comme si Dieu aime tout le monde entier. Mais en fin de compte, il va maintenant changer cet amour en colère pour juger ceux qui ne croient pas en lui. Peut-être que des hommes agissent de cette manière, disant un jour, je vous aime, et puis ensuite maintenant, non, je vous hais. Mais Dieu n'est pas comme ça. Son amour ne change jamais. Si depuis l'éternité, il a placé son amour sur les pécheurs, et que avec le temps, il envoie son Fils, le Saint Jésus-Christ, venir dans ce monde payer leurs dettes, quoiqu'ils étaient encore pécheurs, et que l'Esprit de Dieu maintenant attire ceux-là à Christ au moment voulu par Dieu, quoique pécheurs. Donc, pour quel péché est-ce que Dieu maintenant va renvoyer de tels pécheurs? Non, il n'y a aucune condamnation à cause de cet amour de Dieu et de sa grâce en Jésus-Christ. Alors, voilà le sens du mot la grâce de Dieu, ça ne change point. La bonté de Dieu, ça ne change point. L'amour de Dieu, ça ne change point. Car, verset 6, en Romains 11, verset 6, « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. » Ouais. Alors, ça c'est le salut qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne prêche pas la parole de cette manière ne prêche pas le salut en Jésus-Christ et est encore aveugle et dans ses péchés. Voyez ses caractéristiques, la bonté, la grâce, l'amour de Dieu. Ces caractéristiques sont opposées aux caractéristiques haineuse et haïssante des hommes non renouvelés, cela veut dire encore dans leur péché. Et laisser à nous-mêmes, chacun de nous, aller toujours chercher à bouleverser cette bienveillance de Dieu. Mais Par la grâce de Dieu, ces choses ne peuvent pas empêcher Dieu d'exercer sa bonté, parce qu'une fois qu'il a déterminé depuis l'éternité que ça serait ainsi, alors c'est ainsi. Et c'est pas là qu'il sauve. Donc, un troisième point que je voudrais retirer de notre texte ici dans Tite chapitre 3, c'est que le salut qui est en Jésus-Christ, c'est pour les pécheurs, ça nous avons vu, c'est uniquement par la grâce de Dieu, ça nous savons. Mais, troisièmement, c'est révélé au cœur par le Saint-Esprit. Tout simplement, tous ceux que Dieu a destinés pour le salut en Jésus-Christ et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort, c'est par la révélation de Christ au cœur, par l'Esprit de la grâce de Dieu que Christ est révélé. C'est ce que nous voyons ici dans le verset 5. C'est écrit, « Il nous a sauvés ». Je ne sais pas comment ça peut être plus clair que cela. Qui sauve? Dieu sauve. D'où vient le salut? Ça vient de Dieu. Il nous a sauvés. Ouais, le salut, c'est vrai, ça a été prédestiné pour les pécheurs que Dieu, dans sa grâce depuis l'éternité, a destiné au salut. Et donc, on peut se demander à quel moment alors est-ce que ce salut était accompli? Parce que nous savons que nous attendons le jour où nous ne serons plus dans ce corps et nous serons auprès de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est notre espoir à cause de Christ. Mais à quel moment est-ce que ce salut était en fait achevé? Nous pouvons dire que c'est à la croix. C'est pourquoi Paul peut dire ici, il nous a sauvés, et notez bien encore, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Alors, s'il insiste dessus, c'est parce que notre nature pécheresse est peut-être de penser ou d'imaginer que c'est à cause de quelque chose en nous que Dieu a mis son amour sur nous. Mais loin de là, deux choses, notez verset 5, c'est selon sa miséricorde. Encore, quand on parle de l'élection de la race de Dieu, où Dieu a choisi les pécheurs qu'il veut sauver, là, nous voyons la plus grande manifestation de la miséricorde de Dieu. Dans le mot miséricorde, il y a le mot misère. C'est pour les misérables. C'est pour des pécheurs tels qu'ils sont décrits dans le verset 3. Et quand l'Esprit de la grâce de Dieu révèle en nous ce que nous sommes, nous admettons, nous confessons, nous acceptons tout ce que Dieu a à dire de nous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de cela. Et c'est dans cela que nous voyons combien est grande sa miséricorde. Ouais. Mais comment est-ce que quelqu'un, un tel pécheur, peut savoir qu'il est l'objet de cette miséricorde? C'est par ici maintenant que nous voyons cette œuvre de grâce qui a été destinée depuis l'éternité et manifestée en Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur cette terre et vivre une vie parfaite pour satisfaire à la justice de Dieu et mourir comme un sacrifice efficace pour ce que le Père lui a donné. Donc, la grâce prédestinée, la grâce manifestée dans la personne de Jésus-Christ lorsqu'il a accompli cette œuvre du salut, mais maintenant révélée. Révélée dans les cœurs de ceux pour qui ce salut a été accompli. Et c'est pourquoi Paul dit ici, par le baptême de la régénération. Et le mot « et » là signifie même le renouvellement du Saint-Esprit. Ouais. Donc, Qu'est-ce que ce baptême de la régénération? Il ne s'agit pas ici de l'ordonnance du baptême d'eau. Et cela n'a jamais servi pour le salut de quiconque. Vous voyez, le baptême dans l'eau est un témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour le pécheur qui le confesse. Et c'est pourquoi le moyen que la Bible enseigne d'être baptisé est toujours l'immersion. Parce que c'est dans ça que nous voyons représenter la mort et l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'étions pas là physiquement, mais lorsque Christ est mort, s'il est mort pour nous, donc j'ai subi en même temps cette mort. Et lorsqu'il est ressuscité, je suis aussi ressuscité avec lui et ascendu au ciel avec lui, où ma place est réservée. Tout cela, c'est ma position. Donc, c'est à cause de l'œuvre de Christ. Et le baptême dans l'eau, l'immersion, est une manifestation, une confession de cette œuvre de Christ accomplie pour un pécheur tel que je suis. Mais ici, le mot baptême signifie plutôt une œuvre de l'Esprit, et on entend beaucoup parler du baptême du Saint-Esprit, comme si c'est une expérience qu'il faut avoir, qui va nous amener maintenant à parler en langue ou autre manifestation physique. Non. Ici, il s'agit de l'œuvre de l'Esprit à l'intérieur du cœur. Et c'est par l'Esprit de Dieu, à travers la prédication de l'Évangile, cette parole que nous avons ici, que l'Esprit régénère les pécheurs pour qui Christ est mort. Si c'était le baptême dans l'eau, nous savons qu'il y a, à travers les Écritures, des exemples de ceux qui ont été baptisés dans l'eau, mais qui n'étaient pas régénérés, tels que Simon le Mage dans le livre des Actes des Apôtres. Mais aussi, par contre, nous avons des exemples de ceux qui n'ont jamais été baptisés, pourtant sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et cette œuvre de grâce, en révélant Christ en eux, a été manifestée. L'exemple du brigand qui était crucifié en même temps que le Seigneur Jésus-Christ. Pour 20 ans, il se moquait du Christ et il était opposé jusqu'au moment où l'Esprit de la grâce maintenant a révélé Christ en lui, et c'est là que tout a changé. Alors, c'est de cela que Paul parle ici dans Tite 3 et le verset 5. C'est donné comme une image du baptême, mais c'est le baptême de la régénération. Et c'est expliqué par ce qui suit, le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, sans ce renouvellement, rendre nouveau, cela veut dire la régénération est une résurrection où Dieu, par son esprit, prend un pécheur qui est mort dans ses péchés et le rend à la vie. Alors, l'ordre est important. Personne ne peut croire en Christ et venir à Christ tant que l'Esprit de Dieu n'est révélé en lui, ne révèle Christ en lui, ne le renouvelle, rend à la vie de nouveau. Peut-être vous vous demandez, mais à quel moment est-ce que nous étions morts? C'est quand Adam a péché. Et c'est par Adam et son péché que la mort est entrée dans le monde. Donc, nous étions à un moment donné en vie, avant la chute, en Adam, notre représentant, et puis ensuite, Nous sommes morts spirituellement. C'est par lui que la mort maintenant a passé sur tous les hommes. Et il nous faut maintenant l'Esprit de Dieu, maintenant de nous régénérer et de nous mettre à part et donner cette vie que le sang de Christ a mérité pour nous. On ne doit pas douter de la manière que l'Esprit de Dieu agit. Il agit dans les cœurs de ceux pour qui Christ est mort, ceux pour qui ce sang a été versé. Et le fait que l'Esprit de la grâce de Dieu les rend maintenant à la vie, rend témoin, c'est le témoignage de Dieu que celui-là qui est rendu à la vie était tout le temps l'objet de sa grâce et un pécheur pour qui Christ est mort. Donc, le salut en Jésus-Christ est révélé par l'Esprit de Christ dans le cœur de ces pécheurs que Christ a sauvés par son sang. Et puis, un dernier point que je voudrais souligner qui est aussi très important, c'est de savoir que le salut en Jésus-Christ est un salut qui justifie, qui déclare juste le pécheur. Notez bien dans le verset 6 et 7, c'est écrit qu'il a répandu sur nous avec abondance. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, l'Esprit de la grâce, cette œuvre de régénérer le pécheur est répandue sur nous, cela veut dire sur ceux qui sont les objets de sa grâce, avec abondance. Cela veut dire cette grâce dépasse infiniment le péché qui est en nous, parce que Christ a déjà porté ce péché. Il ne faut jamais arrêter avant de lire le reste de ce verset. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout provient de lui et de son œuvre accomplie pour les pécheurs. Et c'est écrit, afin que, justifiés par sa grâce, notez, justifiés, déclarés justes. Voilà comment Dieu regarde maintenant ceux pour qui Christ a payé la dette. Ils sont justifiés. Mais comme si on ne devait pas oublier le pourquoi, par sa grâce. Ce n'est pas à cause des œuvres quelconques en nous. Alors nous devenions, et j'aime beaucoup ce mot, en espérance. Nous avons dans ce salut en Jésus-Christ une véritable espérance comme héritier de la vie éternelle. Comment est-ce qu'on devient héritier? C'est par Dieu qui a nommé dans le livre de vie de l'agneau qui a versé son sang, il a dénommé déjà tous ceux qui devaient être bénéficiés de cette grâce, héritiers de la vie éternelle. Ça ne dit pas mérité, mais héritier. Ceux qui sont héritiers de la vie éternelle. C'est cela et selon le décret de Dieu, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix et c'est l'Esprit maintenant qui révèle cela. Ça, c'est le salut qui est en Jésus-Christ et toute la gloire lui revient. Alors, pour conclure, c'est pourquoi nous lisons dans le verset 8, « Cette parole est certaine. » Je sais que les gens vont toujours essayer de trouver des déviations ou bien ajouter des conditions ou leur interprétation à ce que dit la Bible. Mais pour ma confiance, pour mon réconfort, je dois revenir toujours à cette parole. Le témoignage des hommes va toujours confondre. Mais ici, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Encore, si les gens demandent, mais pourquoi à chaque fois vous prêchez Christ et Christ crucifié, toujours le salut, salut en Christ, est-ce qu'on n'avance pas plus loin que cela? Non. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes, notez bien, c'est au temps présent. Continue et à affirmer ces choses afin que, notez bien, ceux qui ont cru en Dieu. Ouais, nous ne prêchons pas en imaginant que les boucs seront convertis. Cette parole n'est jamais adressée aux boucs ou bien aux pécheurs que Dieu laisse à leur sens réprouver. Ils peuvent peut-être lire cette parole, mais cette parole n'est pas pour eux. La seule preuve que cette parole est pour un pécheur quelconque est le fait que l'Esprit de Dieu, à travers cette parole, agit dans le cœur du pécheur en révélant Christ à ce pécheur-là. Donc, quand je prêche, ce n'est pas en imaginant que tous les gens vont éventuellement appréhender ces choses, non. Il dit, afin que ceux qui ont cru en Dieu, qui sont ceux qui ont cru en Dieu, il faut voir le contexte, ceux qui ont été, par la grâce de Dieu, faits héritiers de cette vie éternelle, en qui le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, a révélé leur cœur, a renouvelé leur cœur plutôt, et qui sont maintenant les objets de sa grâce et sa bonté. C'est tout. Alors, comment est-ce que de telles personnes vivront? C'est écrit d'affirmer ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Cela veut dire à manifester cette grâce de Dieu envers ceux qui nous entourent. Ce n'est pas que nous voulons qu'ils voient nos œuvres, parce qu'il n'y a aucune bonne œuvre qui ne vient de Dieu, qui n'est produite par Dieu. Donc, notre manière d'agir face aux autres n'est jamais sur la base de mérite, mais de grâce. Alors, il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. J'espère que ce que nous venons d'entendre, que le Seigneur bénisse cette parole. Je ne suis qu'un messager en train d'annoncer la manière que Dieu m'a sauvé par sa grâce. Et toute la gloire revient à Dieu par Jésus-Christ pour ce salut et cette grâce. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen.